Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans nos lectures en liberté, nous retrouvons donc ce soir les personnages de Nicolas Mathieu dans son roman « Leurs enfants après eux ». Simon et Rodrigue skataient torse nu, pendant que les filles et Romain glandaient en haut de la rampe, les jambes ballant dans le vide. Le choc répétitif des trucks parcourait toute la structure et leur cognait la poitrine. Romain s'était mis à brancher Steph sans vergogne. Ses tentatives la gonflaient, d'autant plus qu'elles confirmaient l'indifférence de Simon. Sans quoi son frangin ne se serait pas permis. Du coup, elle se sentait moche, suante, assiégée. Et obligée de faire bonne figure en plus avec cette Belge horriblement nouvelle qui se trouvait là, mince, comme pas permis. À un moment, Romain tenta de lui passer une main dans le dos. Elle lui conseilla d'aller se faire foutre. « Mais pour qui tu te prends ?» fit le garçon, piqué au vif. Tout le monde l'avait entendu se faire rembarrer, et vu la gueule qu'il tirait, il était clair qu'il n'allait pas en rester là. Du coup, Clem s'en mêla. « Arrête ça, » dit-elle, « mais genre tout de suite !» Elle était sortie avec Romain en cinquième et conservait de cette triste expérience un genre d'ascendant alternatif. Si elle n'en abusait pas, si elle frappait vite et bien, elle pouvait le remettre à sa place sans trop de problèmes. Cette fois, elle avait sans doute exagéré en le taclant de manière aussi expéditive. Il se leva et se rendit à l'autre extrémité de la rampe. Là, les jambes écartées, il se mit à pisser dans le vide. « Mais t'es dégueulasse, sérieux ! Non mais gros, arrête ça !» Il prit son temps. Secoua ostensiblement les dernières gouttes avant de refermer sa braguette. « T'as rien à me dire ?»« T'es un dégueulasse !» fit Clem. « En vrai, mais ça se fait pas !»« Ah ouais ? Et se taper des cassos, ça se fait ?» Touché. Clem blêmit. Comment il savait ça ? Et les autres, est-ce qu'ils étaient au courant ? Comme personne ne bronchait, elle présuma que son histoire avec le cousin était connue de tous. Les boules. Elle se promit d'y mettre un terme très vite, dès qu'elle aurait obtenu ce qu'elle voulait, en tout cas. Anne proposa alors de faire un joint pour détendre l'atmosphère. Ça partait d'un bon sentiment, mais Steph refusa et Clem aussi, par solidarité essentiellement. En plus, il commençait à se faire tard. Steph veillait toujours à ne pas rentrer trop déchirée chez elle. Sa mère avait l'âme douanière et un chronomètre à la place du cœur. Si Steph avait l'œil injecté et n'était pas rentré pour 19h, il fallait se farcir des litanies sur le respect et l'avenir. Un retard de 5 minutes prenait des dehors prémonitoires. On en déduisait sa ruine future, ses grossesses non désirées, des hommes pris de boisson, des carrières en cul-de-sac, pire. Un cursus de sociaux s'achevant par un concours administratif. Pourtant, sa mère elle-même n'avait pas fait tellement d'étincelles à la fac de droit. Elle s'était rattrapée en épousant un concessionnaire Mercedes qui avait l'exclusivité dans toute la vallée et des ramifications jusqu'au Luxembourg. Chez Stéphanie, on compensait la brièveté des parcours académiques en se racontant des histoires de force du poignet, de fait tout seul, de valeur travail. Le récit, sans être totalement inexact, enjolivait tout de même assez la réalité historique. Pour bâtir son petit empire automobile, le père de Steph avait heureusement pu compter sur un legs familial, plutôt bienvenu après 3 échecs en première année de médecine. Bon. Simon venait d'atterrir tout près. Il se tenait là, une main sur son skate à la verticale, le futal bas, son ventre musclé luisant de transpiration. Steph leva les yeux. Il avait les joues vives, les cheveux trempés. « On y va ?» C'est à la Belge qu'il s'adressait. Elle répondit d'accord avec un gros accent et puis se leva, lymphatique et très grande, prenant le temps d'essuyer la poussière sur son cul. Sous son t-shirt, ses seins ballottaient librement. On voyait qu'elle avait des mamelons larges et gonflés. Steph bouillait. « Vous allez où comme ça ?» fit Rodrigue, taquin. Anne tourna le dos. Simon, qui s'essuyait les aisselles avec son t-shirt, ne répondit pas davantage. Il quitta la rampe en premier, puis aida la jeune fille à descendre. « Amusez-vous bien ?» fit encore Rodrigue. Steph baissa les yeux, le nez plein de picotements. Ça montait. C'était pénible. Chaque fois, c'était la même chose, et Clem, qui la fixait en plus, elle tint bon, se concentrant sur le jonc qu'elle faisait tourner à son poignet. Dès que ce fut jouable, elle se leva à son tour. « Tu te casses aussi ? Attends, je te ramène !» proposa Clémence. « Non, c'est bon, fit Steph. »« Non, mais attends, je vais te ramener. Mais je te dis que c'est bon. Mais tu vas pas rentrer à pied, comme une conne. Mais lâche-moi, ça va !» Clémence comprit qu'on était au bord. Elle n'insista pas davantage. Steph partit à travers cette zone vague qui reliait le Steak Park aux anciennes cités ouvrières. C'était une étendue herbeuse et vallonnée qui ne servait à rien, sinon à larguer un frigo hors d'usage ou faire du VTT. Il fallait facile une demi-heure de marche pour atteindre le centre-ville. Le lac se trouvait à l'autre bout du monde. Sa maison, pas tellement plus près. Steph s'en foutait. Elle suivait le petit chemin de poussière qui sinuait à travers ce territoire sans fonction, bercé par le frottement répétitif de ses pas, le cœur comme une enclume. Elle se contenait. Mais le chagrin, le dépit, faisait des vagues de plus en plus grosses. Elle voulut courir, mais elle s'y prenait comme une vraie godiche et finit par se ramasser de tout son long dans la poussière. Une fois debout, elle constata que ses mains saignaient un peu. Alors, les digues cédèrent d'un coup et elle se mit à chialer pour de bon. Un vrai chagrin moche, avec de la morve, des hoquets et le maquillage qui fout le camp. Elle en avait le souffle coupé. À la fin, elle se retrouva soulagée avec une impression de grande fatigue. Un bruit de moteur la surprit dans cet état. Elle se tourna pour voir. C'était l'autre con. Après leur visite chez les Bouali, Anthony et sa mère se dépêchèrent de quitter la ZUP pour rejoindre la voiture. Pour ça, il fallait traverser un paysage de parking, de parterres et de buttes herbeuses avec du mobilier urbain tagué, des mers à poussettes, des cyclomoteurs qui ne faisaient rien que tourner en rond. Des habitants, accoudés à leurs fenêtres, les guettaient sans dire un mot. Au loin, on voyait le viaduc qui enjambait une partie de la vallée. Des voitures filaient dessus à 130 km/h vers Paris ou à l'opposé. « Tu vois, on a bien fait !» dit Hélène. Elle était plutôt contente du déroulement des opérations, entre elle et ce vieux type, quelque chose était passé.
T'es pas d'accord ?
La tête enfoncée dans les épaules, Anthony marchait sans dire un mot. Il faisait sa mauvaise tête, comme s'il avait honte. Et puis, cette démarche de racaille, elle l'aurait baffé.
Arrête un peu ton cinéma. C'est quoi, cette manière de marcher ?
Le garçon la foudroya du regard.
« On la reverra jamais, cette moto. C'est mort. Elle est au bled à l'heure qu'il est. »«
Mais tu peux pas dire ça. C'est débile, ces histoires. Mais redescends un peu sur terre, putain !» On a fait ce qu'il fallait. Il leva les yeux au ciel. Une nouvelle fois, la mère se retrouvait face à un étranger. Dire que 10 ans plus tôt, il lui faisait des colliers de nouilles pour la fête des mères. Ça avait toujours été un bon gamin, pourtant. Évidemment, il n'en faisait pas lourd à l'école, et puis il était du genre bagarreur, mais dans l'ensemble, elle savait à quoi s'en tenir. Quand il était tout petit, elle lui chantait la rivière au bord de l'eau. Il adorait la confiture et ce dessin animé avec le petit indien Zachary ou quelque chose comme ça. Elle pouvait encore se souvenir de l'odeur de sa tête quand il s'endormait sur ses genoux le samedi soir devant la télé. Comme du pain chaud. Et un beau jour, il lui avait demandé de frapper avant d'entrer dans sa chambre, et à partir de là, les choses s'étaient précipitées d'une manière assez inattendue. Maintenant, elle se retrouvait avec cette demi-brute qui voulait se faire tatouer, sentait des pieds et se dandinait comme une racaille, son petit garçon. Elle s'énerva pour de bon.
« Mais petit con ! Tu veux que je te rappelle qui c'est qui l'a prise, cette moto, au départ ?»
Anthony la défia du regard, presque haineux.
« On peut pas faire confiance à ces gens, c'est ça que tu veux pas comprendre. Mais arrête un peu avec ça, on dirait ton père !»
Curieusement, cette parole flatta le garçon.
« Je sais ce que je dois faire, de toute façon, » dit-il. « Comment ça ?»
Il descendait maintenant la côte qui menait vers le centre-ville. En bas, un rond-point desservait 3 routes. L'une d'elles permettait de regagner le lotissement de la Grappe, où vivaient les Casati. Les autres menaient en ville ou vers l'autoroute. Anthony hâta le pas pour distancer sa mère.
Hélène l'attrapa au col. Elle l'aurait tué. « Mais pourquoi t'es comme ça ? » clapit-elle. « J'en ai marre, tu m'entends ? Mais lâche-moi, fous-moi la paix !»
Il se dégagea brutalement, et Hélène fut alors saisie par la laideur de son fils. Depuis des mois qu'elle voyait s'accomplir sur lui les transformations de la puberté, elle avait accumulé pas mal de dégoût en elle, comme un méchant secret. Il avait l'air bête, il faisait la gueule sans arrêt. Son œil malade, qui lui donnait autrefois une bouille attendrissante, ressemblait maintenant à une infirmité. Et puis, par moments, dans ses gestes, ses intonations, elle reconnaissait l'autre, le père.
« J'en peux plus de toi, tu m'entends ?»
Une voiture qui montait vers la ZUP ralentit à leur hauteur. C'était des jeunes, ils klaxonnèrent gaiement.
« Vous avez besoin d'aide, madame ?»
Anthony profita de la diversion pour la planter là. Il partit en sprint. Le jeune type dans la bagnole demanda «
Vous voulez qu'on vous ramène ?»«
Ah, foutez-moi la paix !»
répliqua Hélène, avec un geste comme pour chasser un moustique. Anthony dévala jusqu'au rond-point, pris sur la gauche. Ce n'était pas la route qui ramenait chez eux.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar.
Oh, moon of our love, oh, moon.
little girl. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
De nouveau le roman de Nicolas Mathieu, après le moment musical. Il courut comme ça un moment, mais il ne savait pas où aller et n'avait pas l'intention de rentrer. Il en voulait à la terre entière. Il n'y a pas si longtemps, il lui suffisait de se taper des pop-corns devant un bon film pour être content. La vie se justifiait toute seule alors. Dans son recommencement même. Il se levait le matin, il allait au bahut, il y avait le rythme des cours, les copains, tout s'enchaînait avec une déconcertante facilité, la détresse maximale advenant quand tombait une interro surprise. Et puis maintenant, ça, ce sentiment de boue, cette prison des jours. S'il se souvenait bien, la première fièvre l'avait pris pendant son cours de bio. La prof articulait des mots extraterrestres, du genre minozogite ou minozygote ou sissiparité, et tout à coup, il s'était dit qu'il ne pouvait plus. Capucine Mecker, au premier rang, la couleur du linoléum, son voisin de paillasse, l'odeur de soude et de savonnette qu'on respirait dans les labos du dernier étage, ses ongles rongés. Cette énergie incessante qui lui brûlait la peau, il ne pouvait plus, c'est tout. Il avait cherché la pendule sur le mur. Il restait encore une bonne demi-heure de cours et cette demi-heure, soudain, avait pris une amplitude océanique. Alors, il avait tout foutu en l'air. Trousses, livres, cahiers, même le tabouret. Dans le bureau du Dirlo, ça ne s'était pas si mal passé. Monsieur Villeminot n'ignorait rien du fonctionnement de ces mômes enfermés à longueur d'année. En proie à leurs hormones, cornaqués pour obtenir de vains brevets qui les destinaient à des formations plus ou moins prestigieuses, mais qui toutes agissaient comme autant de laminoirs, d'où l'on sortait accompli ou bien brisé, c'est-à-dire disponible. M. Villeminot ne s'offusquait plus de ses coups de sang, des pelles qu'on se roule dans les coins, des consommations clandestines de drogue et d'alcool. Il se contentait d'appliquer le règlement sans colère, sans indulgence, mécaniquement. Anthony en avait été quitte pour 3 jours d'exclusion. C'est un quartade venant après pas mal d'autres. Dès lors, la vie avait pris un drôle d'aspect. Il arrivait à Anthony de se lever le matin encore plus crevé que la veille. Il dormait pourtant de plus en plus tard, surtout le week-end, ce qui faisait enrager sa mère. Quand les copains le vannaient, il prenait la mouche, répliquait avec ses poings. Sans cesse, il avait envie de cogner, de se faire mal, de foncer dans le mur. Alors il partait faire du vélo, avec son Walkman sur les oreilles, en se repassant 20 fois la même chanson triste. Soudain, en regardant Beverly Hills à la télé, de hautes mélancolies le prenaient. Ailleurs, la Californie existait. Et là-bas, c'est sûr, des gens menaient des vies qui valaient le coup. Lui, il avait des boutons, des baskets trouées, un œil foutu. Et ses parents qui régnaient sur sa vie. Bien sûr, il contournait les ordres et défiait constamment leur autorité. Mais tout de même, Ces destins acceptables restaient hors de portée. Il n'allait quand même pas finir comme son vieux, bourré la moitié du temps, à gueuler devant le JT ou à s'engueuler avec une femme indifférente. Mais où était la vie, merde ? À force de marcher, Anthony avait naturellement dérivé vers les marges de la ville. Jusque loin, on voyait maintenant un panorama navrant de buttes épaisses d'herbes jaunes. Là-bas, une carcasse de caddie abandonnée. Pour ceux qui avaient de l'imagination, ça pouvait sembler romantique. Anthony n'était pas de cet avis. Il allait rebrousser chemin quand il aperçut Steph. Aussitôt, son cœur s'emballa. Elle était toute seule sur le petit chemin qui menait au nouveau skatepark. À cette distance, on la devinait plus qu'autre chose. Mais la queue de cheval, les fesses, il n'y avait pas de doute possible. Un petit deux-roues arrivait derrière elle, lent, cahotant, avec son chevrotement caractéristique. C'était l'autre abruti, Romain Rottier, au guidon de son minuscule chapis. Steph s'immobilisa pour l'attendre. L'espace entre eux se réduisait vite. Dégoûté, Anthony devinait déjà la suite. Mais c'est tout l'inverse qui se produisit. Visiblement, Steph n'avait aucune envie de parler avec ce con, et leur conversation dégénéra presque aussitôt. La jeune fille voulut reprendre sa route, mais l'autre ne voulait rien savoir. Il la poursuivit en slalomant, jouant de l'accélérateur pour se maintenir à sa hauteur. Il s'éloignait, puis revenait lui couper la route. C'était horripilant, même à regarder. Quand il klaxonna, Anthony n'y tint plus et fonça tête baissée. Il n'avait pas pensé que la distance était si importante. Il dut courir presque une minute pour les rejoindre. Et les deux autres eurent tout le temps de le voir venir. C'était un curieux spectacle, ce garçon traversant le paysage à bride abattue, course sur pattes, increvable et tout en épaules. Romain mit le chapis sur sa béquille et prit son casque par la jugulaire, prêt à toute éventualité. Steph constatait son inquiétude. Elle se demanda si Anthony allait lui sauter directement à la gorge. Ça ne semblait pas exclu. Il arriva enfin, poussiéreux et hors d'haleine, il souriait. « Qu'est-ce que tu fous là ?» lui lança Romain, la bouche tordue. Anthony tâchait de reprendre son souffle, les mains sur les cuisses. En plus, il se trouvait face au soleil et ne voyait pas très bien. Malgré cela, il comprit tout de suite que Steph venait de pleurer. Son visage était tout en désordre, ses yeux cernés et rouges. « Ça va ? » dit-il. « Ouais. Il y a un problème ? Mais non, c'est bon. » Elle avait répondu avec humeur. Romain s'en amusa. « Tu crois quoi, Neneuil ? Qu'elle a besoin de toi ? Qu'est-ce que t'as dit ?» Il y eut quelques échanges du même niveau, du genre « Qu'est-ce que tu crois ? Pour qui que tu te prends ?» Romain avait fait deux pas en direction d'Anthony et on sentait que l'idée de lui foutre un coup de casque en pleine figure faisait son chemin. Anthony, justement, n'attendait que ça. Mais Steph coupa court. « Ah, vous me saoulez tous les deux, je rentre !» Et ils virent qu'elle rentrait effectivement, les laissant seuls, avec leur orgueil et le vide pour public. C'était un peu triste du coup. Romain remit son casque. « T'as de la chance pour cette fois !» Il rejoignit sa bécane et adressa un doigt à Anthony avant de repartir comme il était venu. Le bruit s'estompa. Romain avait disparu dans un maigre nuage de poussière. De l'autre côté, la zone étouffée de calme faisait ses vagues immobiles et le soleil en glissant produisait sur la vallée un riche effet de nuances mordorées, de dorures brunes. La silhouette de Steph avait déjà beaucoup rapetissé. Le garçon se dit qu'il allait la suivre. Il n'avait pas l'intention de la rattraper, il voulait seulement la suivre un peu. Il se mit donc en route et l'escorta en silence, en prenant garde de laisser entre eux une bonne centaine de mètres. Bientôt, la jeune fille constata qu'elle n'était pas seule. Elle s'immobilisa. Anthony fut bien forcé de la rejoindre. « Qu'est-ce que tu fais ? Rien ? Pourquoi tu me suis ? Pour rien ? Tu veux me dire quelque chose ? Non ? T'es un pervers ou quoi ? Mais non ? Ben alors ? Alors, rien. » Pourtant, il continua de la suivre. Steph se sentait de plus en plus lasse, déprimée. Elle n'avait pas envie qu'on la voie en ville avec ce releleu. Elle ne voulait pas non plus se retrouver toute seule chez elle. Le soir venant, une anxiété vague monta. Il se trouvait maintenant le long de la départementale qui allait vers Étanges. Steph marchait sur le bord de la route, dans l'herbe morte. Lui l'imitait, 30 mètres derrière. Une nouvelle fois, elle le laissa venir. « Tu vas me suivre comme ça jusqu'où ? T'en as pas marre ? T'as pas autre chose à foutre ?» Il haussa les épaules. À présent, elle parlait sans animosité, plus pour le taquiner qu'autre chose. « T'espères quoi, en fait ?»«
Rien.
Je voulais discuter, c'est tout. » »«
Et ça t'arrive souvent, de suivre les meufs comme ça ?»«
Jamais. » »«
Tu te rends compte que t'es flippant, hein ?»
Il tâcha de trouver un sourire rassurant.
Moi, je voulais pas te faire peur.
Ouais, bon. Elle sembla alors chercher quelque chose dans le paysage. À force de parcourir le coin à pied, à vélo, en scout, en bus ou en bagnole, elle connaissait la vallée par cœur. Tous les mômes étaient comme elle. Ici, la vie était une affaire de trajet. On allait au bahut, chez ses potes, en ville, à la plage, fumait un pet derrière la piscine, retrouvait quelqu'un dans le petit parc. On rentrait, on repartait, pareil pour les adultes. Le boulot, les courses, la nounou, la révision chez Midas, le ciné. Chaque désir induisait une distance. Chaque plaisir nécessitait du carburant. À force, on en venait à penser comme une carte routière. Le souvenir était forcément géographique. Steph eut une idée.
Ça te dit de boire un coup ?
Voilà, nous avons terminé pour ce soir. Donc, les aventures extraites de ce roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver sur podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.